Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu sur un cours intermédiaire, puisque la fois dernière, on a vu, il y a deux fois, on a vu plutôt la partie des prophètes de l'Ancien Testament et puis la révélation du buisson ardent. La fois dernière, on a vu Jésus, donc vraiment le centre de la révélation. Et la fois prochaine, on verra les Écritures et puis ensuite le magistère. Donc du coup, on est sur cette phase intermédiaire on passe du Christ à la suite quelque part, et donc c'est le thème de l'Église au sens large du terme, et donc pas au sens spécifique de Écriture et magistère. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la révélation pleine et entière, c'est le Christ lui-même. Et donc la question qui se pose, c'est comment y avoir accès aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, et finalement l'accès qu'on a à ça, elle se passe dans l'Église. C'est l'Église qui nous donne accès à cette révélation, à la personne du Christ, et dans les deux dimensions, oralement et par écrit. Voilà. Et cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Donc là, ce que nous dit Dei Verbum, l'encyclique, c'est que c'est Dieu lui-même qui a pris les dispositions pour qu'il y ait de l'actualisation et qu'aujourd'hui, nous ayons accès à la personne du Christ et finalement à la révélation. Révolution aussi peut-être, mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas ce soir. Et il fait le lien aussi entre les prophètes qui l'annonçaient dans l'Ancien Testament et puis le rôle des apôtres. Et donc on va beaucoup creuser cette dimension des apôtres qui est continuée dans la succession apostolique pour voir comment est-ce que la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église et donc auprès de nous, de chacun d'entre nous. Voilà. Et donc alors on aura beaucoup de références à Éphésiens, qui est très tout à fait illustratif et tout à fait cohérent avec notre thème d'aujourd'hui, sur cette révélation par le mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Voilà. Et ce qu'on va voir beaucoup, c'est que effectivement, il y a une dimension écrite, mais que une dimension orale au sens enseignement, mais que finalement, c'est dans une communauté vivante et prophétique que la révélation peut nous atteindre aujourd'hui. Parce que c'est pas juste un savoir, c'est pas juste une information, c'est bien plus que ça, puisque c'est une personne et qu'il faut qu'elle se transmette. Alors, dans un premier temps, on regarde les apôtres, qui sont donc envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, le mot apostolos, qui dérive du verbe envoyer, il correspond à l'hébreu qui désigne ainsi l'envoi par Dieu de personnages chargés d'une mission ou d'un message. Donc, Moïse était dit envoyé pour aller voir Pharaon, donc on a le même mot. Isaïe pour son peuple aussi. Voilà, et donc l'envoyé dans l'Ancien Testament et dans toute la tradition juive, il est reçu avec les honneurs qui conviennent à celui qui l'envoie. Et donc l'affront qui lui est fait est ressenti comme tel par l'envoyeur. Donc il y a l'envoyé est vraiment pas juste porteur d'un message, mais représentant au sens fort du terme celui qui envoie. Alors l'institution christique, donc c'est Jésus qui est d'abord apôtre du Père. Donc il se considère lui-même comme l'envoyé du Père. Je vous ai mis un certain nombre de références dans Matthieu, dans Jean, et puis quand on parle de Siloé, où finalement le Siloé veut dire envoyé aussi, donc du coup il y a tout ce jeu de mots dans Jean 9-7. Et il est l'envoyé du Père parce que d'abord il est à son écoute et il reçoit de lui sa doctrine. Donc ce que le Père m'a enseigné, je le dis. Donc il est tout à fait apôtre dans le sens de sa transmission. Et l'envoi est tout à la fois un envoi en mission, mais plus profondément, c'est même l'incarnation qui est son envoi en mission. Alors, au-delà de Jésus, il s'est très tôt entouré d'un groupe de disciples, d'hommes et de femmes, qu'il a discernés personnellement et qui partagent, partie au moins sa vie, et reçoivent de lui un enseignement régulier. Donc, régulièrement dans les évangiles, Jésus s'adresse à ses disciples. Il s'adresse de temps en temps à la foule, mais de temps en temps, il s'adresse à ses disciples. Voilà. Et à certains moments, il les envoie pour diverses missions en son nom, donc l'envoi des 72 disciples pour l'évangélisation, par exemple. Et puis, il leur annonce aussi des persécutions à venir. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et d'autres références qui montrent bien que cet envoi des disciples, bah, il est très consonant avec la personne même du Christ. Et la façon dont on l'accueille représente la façon dont on accueille les disciples. Alors ce groupe, il reste quand même un peu flou, parce que de temps en temps, on parle des 72, comme je vous le disais, mais d'autres fois, on ne sait pas trop qui il y a. On ne sait pas trop d'ailleurs les noms des disciples, certains, mais pas tous. Et puis, il y en a certains qui quittent Jésus dès la deuxième année. Donc, on le voit, cette parole, elle est trop dure à entendre. Et du coup, un certain nombre quittent Jésus. Et puis, on voit, par exemple, à Emmaüs, bah, les deux disciples d'Emmaüs, bah, on voit que c'est ceux qui sont restés. Voilà. Et on n'a pas toujours... on a leur nom, une partie, mais voilà. Et on sait que ce n'est pas des apôtres au sens strict, mais qui sont des disciples. Alors, par contre, Jésus, il a eu nettement l'initiative du choix des 12 disciples, donc des apôtres. Et c'est lui qui leur a donné le nom d'apôtres. Ça, c'est ce qu'on voit dans Luc 6, 13, où il les appelle apôtres. Donc, il reste des disciples. Et dans l'évangile de Saint Jean, ils sont continués à appeler plutôt disciples. Et le mot apôtre est assez exceptionnel dans l'évangile de Saint Jean. Et ils étaient peut-être des disciples plus proches, on va dire. Donc, ils avaient quand même un statut à part. Donc, ils partageaient tous l'intimité du maître. Ils ont été appelés pour être toujours avec lui. Donc, il y a vraiment cette intimité qui n'est pas juste ponctuelle, mais qui est vraiment de vie. Ils sont formés à part. Donc, de temps en temps, Jésus s'adresse à la foule, de temps en temps aux disciples et de temps en temps aux apôtres. Voilà. C'est avec eux que Jésus partage sa dernière scène. Donc là, on voit bien qu'il s'est plus resserré. Et il les associe à son propre sacerdoce. Et après la résurrection, c'est eux dont il veut avant tout assurer la foi et qu'il charge de mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, ce n'est pas tout à fait le même verbe. C'est pempo. Alors, bon, je ne suis pas très douée en grec, donc je ne sais pas très bien, mais je vous ai mis les références au cas où. J'ai des gens aptes à comprendre le grec. Et voilà, donc ce n'est pas tout à fait le même mot, mais ça reste quand même l'envoi. Toi, par exemple, c'est ça. Non, dommage. Alors, on voit que cette institution des apôtres, eh ben, elle a une suite dans un rôle précis dans l'Église primitive. Et on voit que dans les Actes des apôtres, la place des 12, elle est très particulière. À la fois, très fraternelle, ils sont au milieu des autres chrétiens. Hein, ils ne sont pas sur un piédestal ou je ne sais pas où, mais ils ont une vraie autorité. Et ils ont un certain nombre de missions, notamment la référence à la parole, et donc au service de la parole, qui a l'air d'être un peu dédié à eux, même si après les diacres, on voit bien, le font aussi. Et donc, ils sont vraiment l'autorité de Jésus qui leur est donnée. Donc, elle leur est donnée au moment où l'Église est constituée, après l'Ascension et la Pentecôte. Et donc, on voit bien que c'est grâce au Seigneur, ou parce que le Seigneur leur a dit et les a positionnés comme ça, qu'ils peuvent faire ce que lui-même avait fait. Y compris Pierre qui fait des miracles de type résurrection, etc. Donc, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Donc, on est bien dans cette logique-là où le Père a envoyé Jésus et Jésus lui-même envoie ses apôtres. Donc, ils enseignent le nom du Christ, ils font des miracles, ils structurent les communautés dont ils allaient être responsables pour transmettre aux générations postérieures toute la vérité sur la personne de Jésus. Et là, on est bien en lien, en continuité avec l'Ancien Testament. Et c'est toute la thématique avec la référence à Israël. Quand Jésus promet aux 12 qu'ils vont s'asseoir sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, on a mis le parallèle entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Et puis, même dans l'Apocalypse aussi, on voit bien la relation entre les 12 tribus et les apôtres, où les apôtres apparaissent comme les fondements de la Nouvelle Jérusalem, sont les fondations sur lesquelles est posée Jérusalem. Alors, au sein des apôtres, Pierre a une place particulière. On voit bien que ça fonctionne un peu par cercle et que chacun a des positions différentes. Et ça permet que on le verra après, mais que la révélation se propage de façon en cohésion et en communion avec le Christ. Donc, Pierre, il a une place à part. Il est la première place. Et on le voit bien dans tous les évangiles et même dans les Actes des apôtres. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle ». Donc le Christ, qui est lui-même la pierre vivante, Pierre d'Angle, assure à son église bâtie sur pierre la victoire sur les puissances de la mort. Et donc, il lui donne derrière le nom de Pierre, puisqu'il s'appelait Simon. Et donc, on a bien cette référence aux fondations. Pierre demeurera le roc inébranlable de l'Église. Il aura pour mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. Et c'est ce qu'on voit, l'autorité qui est confiée par Jésus à Pierre. D'une part, il lui donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera tenu lié dans les cieux. Et ce que tu délies sur la terre sera tenu dans les cieux pour délier. Donc ça, c'est le pouvoir des clés qui est vraiment conféré à Pierre et qui montre bien cette autorité de gouvernement de l'Église. Et puis, il y a aussi le bon pasteur Jésus, après la résurrection, confie à Pierre, une fois qu'il a après rappelé le... Voilà, combien il a dit « M'aimes-tu plus que cela ?» etc. Enfin, les trois « Je m'aimes-tu » où il dit « Paie mes brebis ». Voilà, et donc il lui confie le rôle de pasteur pour faire que la révélation et l'Église se déploient. Le cas unique de Paul. Alors Paul, c'est encore un autre cas de figure, puisque lui, il n'a pas connu Jésus, historiquement parlant. Et c'est vrai qu'à la différence des actes où le mot apôtre est toujours utilisé au pluriel, on parle des apôtres, puis dans ce temps de Pierre, ou de certains prénoms. Mais c'est plutôt une collégialité. Alors que dans les lettres pauliniennes, en fait, on voit bien l'identité apostolique, l'apôtre. Un apôtre, enfin, l'unité, l'individualité du rôle de Paul. Et donc, la mission qu'il a reçue directement du Christ rend Paul digne de ce titre apostolique et forme un lien essentiel entre Jésus et la mission auprès des païens. Donc, Ananie dit à Paul avant son baptême, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche, car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. » Donc lui, il n'a pas vu toute la vie du Christ et entendu tout ce qu'il a dit, mais dans une médiateté, dans une révélation un peu focalisée, un pointé sur la route de Damas, il devient témoin de ce qu'il a vu et entendu. Quand Paul résume son évangile, il souligne souvent quelques traits de sa vocation d'apôtre. Donc, il en parle beaucoup de son rôle d'apôtre. Et il est apôtre avec cette rencontre exceptionnelle et non pas à cause du lien historique. Ce qui est intéressant, c'est que dans avec les apôtres, aussitôt, il se met à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est fils de Dieu. Donc, il se met tout de suite à être apôtre. Et puis, ce sera dès le début le centre de sa foi apostolique. Mais après, on sait qu'il va assez vite voir quand même la communauté à Jérusalem. Et donc, on retrouve ce lien avec la communauté des apôtres, puisqu'il va référer finalement à Pierre et Jacques pour se faire connaître d'eux et puis quelque part être, pas réenvoyé, mais enfin en tout cas être rattaché à la communion des apôtres. Alors, on pourrait croire que donc ces apôtres, ils ont un titre nouveau. Et donc, on pourrait se dire, les prophétismes, c'est bon pour l'Ancien Testament. Et puis, avec Jésus, c'est plus nécessaire puisque Jésus est là. Et du coup, on se poserait aussi la question, d'ailleurs, de pourquoi est-ce qu'on lit encore l'Ancien Testament et pourquoi est-ce qu'on écoute encore les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que le Nouveau Testament, en fait, il est plutôt une extension de la prophétie que la fin de la prophétie. Alors déjà, Jésus lui-même, il est considéré comme un prophète, comme le prophète. C'est intéressant parce qu'on discute avec des musulmans, ils disent que c'est un prophète, mais en fait, on peut être d'accord aussi, il est prophète. Donc voilà, il est même le plus grand des prophètes. Mais enfin bon, il n'est pas que ça, alors on est d'accord, mais quand même. Et donc, on a plein de textes, en fait, dans les évangiles, notamment dans Saint Jean, mais aussi un peu Saint Luc, où il est reconnu comme un prophète, en fait, par ses contemporains. Donc la Samaritaine, « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Après la multiplication des pains, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Au temple, pareil, c'est vraiment lui le prophète annoncé. Après la résurrection du fils de la veuve de Naïm, la crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et aux disciples d'Emmaüs, quand ils racontent à Jésus, ils disent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Pierre lui-même dit à propos de Jésus, « Moïse a déclaré, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Et donc, voilà, le labellise comme prophète. Et Jésus lui-même, bah, finalement, il a dit « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En fait, il parlait de lui. Donc, voilà. Donc, du coup, il s'assimilait aux prophètes. Donc, comme les prophètes, il dénonce le péché, il purifie, notamment les vendeurs chassés du temple. Il est persécuté et rejeté. Et à la transfiguration, quand le Père dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », on a un impératif, un peu comme on avait eu pour Moïse, dont les paroles devaient être entendues, donc écoutez-le, voilà. Et donc, pour être fidèle au Seigneur, il faut l'écouter. Et par contre, Jésus est bien plus qu'un prophète, puisqu'il ne dit pas juste oracle du Seigneur, donc il ne parle pas juste au nom d'eux, mais il dit, moi je vous dis. Donc il parle, lui il est Dieu, et donc il peut dire aussi ça. Donc c'est un prophète, mais c'est pour ça que je dis le prophète, au sens où il est... le prophète de Dieu, enfin l'envoyé de Dieu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Jésus apparaît, en fait, on voit tout d'un coup ressurgir tout le prophétisme, puisqu'on a les personnages de Jean-Baptiste, Zacharie, Anne, Siméon, tout ça, c'est les prophètes. Donc, Jean-Baptiste, il est reconnu comme prophète. Zacharie, son père, prophétise au moment de sa naissance. Donc, voilà, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Jésus déclare Jean-Baptiste prophète. Alors, qu'êtes-vous allé voir au désert, un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. En fait, il faut savoir qu'au moment de Jésus, il n'y avait pas eu de prophète officiel ou reconnu ou que l'Ancien Testament nous ait dit depuis 5 siècles. Et donc, c'était une vraie souffrance pour le peuple d'Israël, comme s'il y avait une non-communication entre Dieu et le peuple. Et donc, le fait de revoir la prophétie, bah, c'était vécu comme quelque chose de heureux. Et c'est aussi en ça que Jean-Baptiste a été particulièrement écouté. Voilà, il y avait cette tradition prophétique qui tout d'un coup redevenait possible d'écouter directement ce que le Seigneur voulait dire par la bouche des prophètes. Et puis on peut citer même Anne aussi, qui est une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, donc qui est dite prophète. Alors je vous ai mis une phrase de saint Augustin pour le sermon pour la nativité de Jean-Baptiste. Sur le jeu justement de cette prophétie qui ressurgit avec l'arrivée de Jésus, et quand qui dit, alors je vais vous la lire quand même parce que sinon je vais m'embrouiller. Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole. Que signifie le silence de Zacharie sinon que la prophétie a disparu et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close? Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. C'est la révélation qui redevient possible et qui se redonne de façon accessible. Et si Jean s'était annoncé lui-même, la bouche de Zacharie ne se serait pas rouverte, puisque la parole qui lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix. Jean, c'est la voix pour un temps, et le Christ, c'est le Verbe au commencement, c'est le Verbe éternel. Donc c'est la parole éternelle. Et donc on a bien cette idée de... Jean, il annonce le Christ, et donc on est bien dans la démarche de la prophétie. On s'annonce pas soi-même, sauf Jésus qui lui-même s'annonce, puisque c'est lui qui est l'envoyé de Dieu et qui est Dieu. Alors, à la Pentecôte, c'est le moment clé de la prophétie où on voit bien l'ampleur du. Bah, finalement, c'est la naissance de l'Église et qui se fait dans un format prophétique. Puisque à la Pentecôte, tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc Pierre, il explique ce qui s'est passé à la foule qui s'est rassemblée devant le Cénacle. Il parle comme un prophète, il annonce le message de Dieu, tandis que le Saint-Esprit soufflait sur lui. Donc on est vraiment dans une posture de prophète qui explique. Et on sait bien que la prophétie, je vais vous dire après, donc je vais pas avancer trop vite. Et du coup, dans ce passage, il fait référence aux promesses de l'Ancien Testament, notamment la prophétie de Joël. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et donc Pierre, en fait, il proclame la réalisation de la prophétie que Joël avait faite au nom du Seigneur. Donc c'est pas la prophétie, elle a disparu, où il n'y a plus que Jésus. C'est que du coup, maintenant, elle est quasiment accessible à tout le monde, puisque c'est l'Esprit qui va se répandre, et l'Esprit nous rend prophétiques, quoi. Et c'est ce qu'on dit au baptême, quand on dit que nous devenons prêtres, prophètes et rois, bah, c'est bien que l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint qui nous permet de professer ou de, alors c'est pas le même mot, donc faut pas que je dise ça, de prophétiser, voilà, le Seigneur. Et donc on a bien cette promesse que l'Esprit était pour tous et que finalement c'est maintenant que ça se réalise. Et à la Pentecôte, c'est possible pour tous. Donc on voit bien que la prophétie, elle est clé, puisque dès le commencement, en fait, ce que font les premiers disciples, c'est annoncer le Christ, en fait. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Et ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Donc on voit cette circulation de la prophétie qui permet à la fois d'être pleinement chrétien, finalement, et attaché au Christ, et en même temps qui apporte la joie, et en même temps cette communion qui circule pour que chacun soit un et soit en communion avec le Père, avec l'Esprit, avec le Fils, et avec dans l'Esprit. Paul nous dit aussi, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties disparaîtront, mais seulement à la fin des temps. Donc c'est pas Jésus n'annonce pas la fin des prophéties, c'est au contraire, c'est le temps de la prophétie, puisqu'on attend la fin des temps. Et jusque-là, eh ben, la prophétie, elle a un rôle à jouer. Et donc, on voit que dans les débuts de l'Église, on voit se multiplier les charismes. Alors, on a par exemple le prophète Agabus. Alors, je vous assure que je n'avais absolument pas tilté qu'il y avait un prophète qui s'appelait comme ça, le prophète Agabus, dans Actes 11, 28. Voilà, donc, bon, il est juste cité. Mais bon, ça veut dire qu'il y avait des gens prophètes, donc qui étaient reconnus et dont leur fonction était établie, on va dire. Et le don de prophétie est mis en valeur, recherché avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Celui qui prophétise parle pour les hommes, il est constructif, il réconforte, il encourage. Donc on est vraiment sur cette dimension de la révélation qui se répand. Et donc l'Église est prophétique dans ses premiers temps, et elle l'est toujours d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette dimension et cet élargissement qui sont dès très peu de temps après la Pentecôte, quoi. Voilà. Et puis on a l'Apocalypse qui est tout entière un livre prophétique. Donc là on voit tous les personnages qui prophétisent. Alors en fait l'Église, quand on voit ça, on a vu les apôtres, on voit que la prophétie, voilà, elle rayonne, qu'on est au début de l'Église. Et donc comment est-ce que l'Église a les médiations, puisque le sujet c'était comment est-ce que nous on accède à la révélation qu'est le Christ, et comment aujourd'hui on peut y accéder. Donc c'est par... c'est par l'Église, et notamment par cette extension de la fonction apostolique qui s'est transmise dans le temps. Les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs, ceux qui enseignent, donc pluralité de gens. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Donc là, on est encore dans Éphésiens 4. Et donc on voit bien que la prophétie, c'est ce qui permet, alors au-delà il y a aussi l'enseignement, mais ça on verra ça dans le magistère, dans deux cours, et puis les textes aussi dans la fois prochaine. Mais donc on a tout ce rayonnement qui fait que se construit le corps du Christ. Donc la révélation, elle est pas juste une information que le Christ que Dieu nous aime suffisamment pour venir et nous sauver, mais elle est cette constitution finalement du corps du Christ, jusqu'à ce qu'il y ait une pleine connaissance du Fils de Dieu, et donc que sa révélation soit parfaite, on peut dire, enfin en tout cas parfaitement reçue, pour qu'on puisse être avec le Christ dans sa plénitude. Donc la succession apostolique, en fait, ce qu'elle permet, c'est ça, c'est cette transmission du dépôt de la foi. L'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette Église comme société constituée et organisée dans le monde est réalisée dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Donc on a ce réseau qui, parce qu'il est en communion, parce qu'il est innervé ou habité par l'Esprit, et ben peut se transmettre. Et du coup, on a un fil conducteur qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Alors le deuxième concile de Vatican II, en décret sur l'œcuménisme, nous dit un peu la même chose. C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Et donc, quand on dit la plénitude des moyens de salut, c'est bien l'accès à la révélation. Car c'est au seul collège apostolique, dont Pierre est le chef, que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la nouvelle alliance, afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Donc oui, on est peuple de Dieu, mais il faut qu'ils vivent et qu'ils soient un peuple vivant à la gloire du Seigneur. Alors, ce que nous dit cette Église et cette succession apostolique, c'est qu'il y a besoin d'une médiation vivante. Voilà. L'Écriture sainte ne peut pas être suffisante. Donc là, c'est un petit peu... Mais, enfin, même les protestants, qui se basent beaucoup sur l'Écriture sainte, ils ont quand même une dimension communautaire aussi, et de l'Écriture commentée. Voilà, donc on n'est pas... C'est bien là. L'Écriture sainte, c'est pas juste... Alors, pour certaines personnes, elles peuvent se convertir en lisant juste la Bible, mais globalement, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. La transmission orale est supérieure à la transmission écrite. D'abord, culturellement, chez les Juifs, c'est ce qui se passe. Et puis ensuite, Jésus lui-même n'a rien écrit lui-même. Et je pense que ça veut dire que c'est lui qui est la révélation, donc c'est une personne. Et donc, le risque, c'est que s'il fait un texte, ben, on rentre dans une crispation sur un texte et non plus sur la personne vivante. Donc, il n'a pas écrit, sauf sur le sable, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit, devant la femme adultère. Voilà. Et donc, le reste, ça a été écrit par d'autres qui ont raconté plutôt ce que Jésus avait fait, avait dit, etc. Donc on a bien quelque chose de vivant, et même ce canon d'écriture, eh ben, il s'est constitué dans la communauté vivante qui était la première Église, pour se transmettre, pour se raconter, pour se préciser, pour commenter, etc. Vatican II, il met au centre le Christ, c'est clair, Vatican II est très centré sur le Christ, mais il y a un long chapitre sur la transmission, parce que c'est comme ça qu'on y accède aussi. Donc c'est même, et plus que juste un moyen d'y accéder, c'est la révélation elle-même qui contient les moyens de la transmission. Donc le prophète, il est non seulement celui qui annonce, mais il est l'instrument de Dieu, dont la parole est donc performative et transhistorique, quelque part qui le dépasse au-delà des paroles qu'il dit ou de ce qu'il raconte. Ils enseignent aussi parce qu'ils sont en relation avec Dieu et ils incarnent finalement ce qu'ils annoncent, ils le vivent. Voilà, les témoins font partie du message, donc on n'est pas du tout dans une logique comme les médias. Et le Christ a fondé l'Église, enfin a donné les moyens prévus par le Christ, qu'est l'Église. Ben, en fait, ça fait partie aussi de la révélation parce que ça nous dit quelque chose de l'amour de Dieu et du dessein de Dieu et du salut de Dieu. Donc, en fait, le moyen de la révélation et de la communication dans l'Église, eh ben, elle fait partie de la révélation. Donc, c'est un peu... voilà, le moyen et le quoi sont imbriqués. C'est ce que dit De Corinthiens quand il dit « Quant à nos frères, ils sont les envoyés des Églises, ils sont la gloire du Christ. » Il ne dit pas « Ils annoncent la gloire du Christ. » Ils sont eux-mêmes parce qu'ils sont en train d'être... Parce qu'ils sont envoyés, parce qu'ils sont habités par l'Esprit et parce qu'ils sont... voilà, ils se laissent habiter. Et ben, du coup, ils sont la gloire du Christ. Donc, on est bien sur l'image du corps du Christ qui se constitue. La manière même dont la révélation nous parvient est quelque chose de la vérité, car l'acteur majeur est le Saint-Esprit. Pour que l'Église réalise sa mission d'annoncer le royaume, l'Esprit-Saint l'équipe, la dirige, grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. C'est dans l'Église et par l'Esprit qu'est actualisé l'amour de Dieu pour les hommes. La prophétie fait écho à la personne divine dans un temps et dans un lieu. Elle l'actualise pour chacun de nous, et pas en mode individuel, mais en mode voilà, communautaire, parce qu'on est en communion et qu'on est... quelque part que le Christ, c'est le corps du Christ aussi. Voilà. Et donc, c'est nous tous ensemble. Alors, ce qui est important de voir, c'est que cette révélation, du coup, elle passe par un dialogue. On voit bien qu'une médiation vivante, c'est aussi... Voilà, ça se passe par un dialogue. On l'avait vu avec les prophètes de l'Ancien Testament, où il y avait souvent un échange. Moïse avec le puissant ardent, mais plein d'autres prophètes qui échangeaient avec Dieu. Donc, il y avait des questions, des réponses. Voilà. Et donc, on a bien ce dialogue-là qui est complètement consonant avec ce qui est Dieu, qui est Dieu. Et du coup, l'homme est en relation avec le Dieu unique, à la fois d'une façon individuelle et collective. Donc, on a toujours cette alliance de l'individuel et du collectif. La révélation porte en elle le désir de transmettre. Donc, c'est aussi le côté collectif. Et puis, Dieu nous fait coopérateurs de son œuvre. Donc ça aussi, ça fait partie, c'est-à-dire que de nous rendre coopérateurs, c'est à la fois une manière d'intégrer la révélation, parce que quand on doit annoncer quelque chose ou quand on doit œuvrer pour quelqu'un, bah, c'est plus facile on intègre mieux ce que ça veut dire. Voilà, en même temps, c'est une forme de responsabilité aussi. Hein. On n'est jamais assez bien pour la garder. Mais c'est aussi un moyen de le faire agrandir, puisqu'elle a forcément plus de puissance. Donc l'Église, elle est tout à la fois un lieu fermé, structure, et un lieu de passage, mission. Et ses membres ont une double responsabilité, à la fois partie prenante et partie donnante. Et en fait, ils sont l'un et l'autre. Sinon, d'ailleurs, ils ne seront pas vraiment partie prenante. À la fois membre du corps et à part entière, corps vivant de l'Église. Donc on a trois niveaux de dialogue. On a le dialogue dans l'esprit, qui est le lien immédiat entre l'humain et le divin. Et cela suppose un Dieu qui parle. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Dans ce dialogue, l'écoute est supérieure à la vision des dieux. À la vision des yeux, pardon. C'est dans et par l'esprit que Dieu intervient de façon permanente pour mettre en mouvement. Et on a cette idée d'écoute qui est vraiment la notion de dialogue, sachant que là, quand on regarde, on est plus statique, on va dire. Voilà. Donc là, il y a une vraie dynamique qui est complètement celle de l'esprit qui est la vie. On a un deuxième type de dialogue qui est le dialogue dans le temps, c'est l'alliance. Et donc, on voit bien que ça s'étire dans le temps. Dieu sollicite l'homme pour qu'il collabore avec lui et Dieu entre dans le temps de l'homme, éminemment avec l'incarnation. Mais même aujourd'hui, par les sacrements, c'est une forme de rentrée dans notre temps, à nous. Puisque ça rentre dans notre tempo. Et l'Église, elle a aussi ces deux niveaux, puisqu'elle est à la fois dans un temps donné, dans un lieu donné, donc elle est très particulière, et en même temps, elle est l'Église au sens large du terme, enfin voilà, qui dépasse tout, puisqu'elle est déjà quelque chose du corps du Christ. Et puis, la troisième dimension, c'est le dialogue dans la société. Qui se noue dans la fidélité au commandement et oriente la vie politique et sociale. Et donc, quelque part, on a cette dimension horizontale qui se nourrit de la verticalité et qui renforce ce dialogue. Donc, on est vraiment dans une ronde qui est tout à l'image de la Trinité, puisqu'on a cette ronde de vie, où à la fois avec une forme très intimité, on va dire vie commune ou intimité, et puis solidaire en Dieu, dans le corps mystique qui constitue, édifié par l'Esprit. Et donc, il y a comme une circulation de la vie divine qui crée une triple unité en nous, intérieure, communautaire et divine, dont Dieu est la source. Et donc, on a quelque chose de la révélation qui passe par un dialogue, mais qui fait un, comme il est un en trois personnes. Et donc, il nous assimile à lui par grâce et participation à cette unité divine. Alors après, c'est le thème de « déjà là et pas encore », donc c'est encore une autre dimension du temps, où finalement, le temps biblique, il n'est pas mythique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de raconter un événement où Jésus est intervenu, où on n'est pas sur quelque chose qui est conceptuel finalement ou atemporel, mais on est sur un temps qui est linéaire, orienté et puis très concret. Et donc là, les prophéties, je pense que ce qui est important de se dire, c'est on a tendance à dire prophète, c'est prophétie, c'est juste on dit l'avenir. Mais en fait, c'est pas tant la prédiction du futur que le présent, mais dans la dimension, comment le présent, ce qui est en jeu dans le présent, c'est la fidélité du Seigneur. Et donc, quelque part, le avant et le après et la fin des temps. Donc, on est sur du présent, mais qui s'éclaire ou qui s'élargit à la dimension de l'ensemble du temps, et donc finalement de l'alliance depuis le début. L'importance du commencement et aussi d'une vraie fin, donc ça c'est important, et c'est vrai que c'est quelque chose de très spécifique à la révélation, il y a un début, il y a une fin. Entre les deux, c'est le temps de la croissance. Et donc c'est pourtant pas un temps séquentiel, c'est pas un monde d'abord, et puis ensuite il y aura la Jérusalem céleste. Finalement, il y a déjà des choses qui sont là, de l'après. Et quelque part dans le paradis, il y avait aussi déjà des choses de la Jérusalem céleste. Donc on a deux mondes successifs, et pourtant, l'un comme l'autre, formés d'éléments visibles et invisibles mêlés. Et l'un de ces mondes doit envahir l'autre et le supplanter. C'est pourquoi le jour de Yahvé, le jour où son règne commence, est le jour du jugement, de la crise, qui doit dénouer l'histoire présente par l'irruption dominatrice de la puissance souveraine. L'espérance est une note essentielle à la religion prophétique, portant au maximum d'intensité toutes les valeurs religieuses centrales dans la piété d'Israël. Le prophétisme va lui-même se condenser dans une attente. Les psaumes du règne de Dieu, donc les 96 à 99, ont un sens eschatologique. C'est dans l'attente sans cesse renouvelée du jour final qu'on les chantait comme déjà présentes. Donc ça, c'est ce que dit Louis Bouillet dans la Bible et l'Évangile, qui est quand même mon livre que je vous cite à chaque fois. Donc je ne l'avais pas encore cité, donc là, vous y avez droit. Voilà. Et donc, il y a ce temps de... Parce que l'espérance, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas juste se dire que quelque chose va se réaliser. c'est le fait d'être sûr que c'est déjà en marche, en fait, voilà. Et donc, c'est déjà réalisé, sauf qu'il y a une part de devenir. Donc, c'est le pas encore. Mais l'espérance n'est pas juste le souhait que ça aille mieux demain. Et on a bien cette notion qui est là déjà dans l'Ancien Testament, qui est éminemment liée au prophétisme, justement, qui parle du présent, mais qui est tout tendu vers l'avenir et vers ce jour final. Et pourtant, ce jour final, il y a déjà quelque chose qui est déjà là aujourd'hui et dont je peux vivre aujourd'hui. Donc l'Église et le règne du Christ déjà mystérieusement présent, elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur terre. Elle est dans l'histoire, donc ancrée un temps et complètement ancrée dans l'histoire et incarnée. Et elle la transcende en même temps. Elle est l'épouse qui, avec l'Esprit, dit « viens » comme dans l'Apocalypse. Donc on est dans ce rapport au temps qui est déjà là et pas encore. Je pense que c'est toujours une bonne réflexion pour se dire qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour connaître la révélation. Et en même temps, on connaîtra tout bien et parfaitement et en plénitude que... voilà, au ciel. Pour conclure, Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par elle dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Voilà, c'est un bon résumé du cours d'aujourd'hui. Et puis une phrase d'Éphésiens, parce que franchement, Éphésiens, je vous invite à la relire, elle est vraiment très, très éclairante pour cette révélation et en quoi est-ce qu'on constitue dans cette dimension très individuelle et collective. Je trouve qu'elle est très, très, voilà, elle est à méditer. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, quand même, c'est beau. Vous êtes membre de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Voilà, il y en a du présent, du futur, de l'individuel, du collectif, et puis de la sainteté, donc c'est pas mal. Voilà ce que je voulais partager avec vous.